Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Dans ce numéro spécial de Grand Dialogue, nous recevons Alberto Serroso, nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Avec lui, nous allons évoquer sa lecture des relations entre le Mali et l'Union européenne, les enjeux sécuritaires dans la région, les perspectives de coopération au développement ainsi que les questions migratoires. Cette émission se déroulera en deux temps. Une première partie consacrée à notre entretien avec l'ambassadeur, suivie d'une seconde séquence ouverte aux questions et aux réactions et questions de nos auditeurs. Je suis Mariam Maïga, très heureuse d'être à la modération de cette émission. Auditeurs, téléspectateurs et internautes, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Alors, vous êtes espagnol ? Question qui ne fait pas partie du questionnaire que nous allons vous poser tout à l'heure, mais je vais commencer par la question de briser la glace. Savez-vous qu'au Mali, supporter le Barça ou le Real, c'est comme une religion? Est-ce que vous aimez le foot?
J'aime beaucoup le foot.
Vous êtes Barça ou Real?
Je croyais qu'on avait dit de ne pas poser des questions compliquées. Vous commencez avec la question la plus compliquée de tous.
C'est très
voilà.
Simple comme question.
C'est vrai. Bon, oui, j'aime le foot, bien sûr. Et je sais qu'ici, les foot et le foot espagnol est très suivi. Alors, je dois faire attention parce que je ne vais pas avoir des problèmes avec qui. Mais je suis du Madrid. Je suis né à Madrid.
Ah.
Alors, je suis du Real Madrid. Mais en tout cas, en tant que diplomate espagnol, je reconnais aussi que le Barça est aussi une des grandes équipes du monde. Alors, je respecte aussi beaucoup le Barça.
Ah ben, je suis très heureuse de partager le même choix de club que vous sur ce plateau. Commençons donc notre émission. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes au Mali depuis peu. Quel regard portez-vous sur le pays depuis votre arrivée?
Bon, merci pour la question parce que vraiment, je suis arrivé il y a deux mois et demi, déjà presque 3 mois. Et pour moi, c'est la première fois ici au Mali. C'est vrai que dans ma carrière, je gérais des affaires africaines pendant plusieurs années parce que c'est pas la première fois en Afrique. Je commençais ma carrière diplomatique au Cameroun et aussi j'ai passé 6 années en Mozambique. Mais c'est vrai que c'est la première fois au Mali. Avant de venir ici au Mali, je suis diplomate espagnol, je travaillais au ministère des Affaires étrangères et j'étais envoyé spécial pour le Sahel. Et quelques années avant, j'étais aussi directeur général adjoint pour l'Afrique. Alors, je gérais le Sahel et le Mali pendant plusieurs fois. Et pour moi, le Mali était un des pays les plus attirants de l'Afrique parce que vraiment, j'ai connu parler du Mali, de Timbuktu, de la culture malienne, des traditions, la musique, le pays Dogon. Alors, pendant des années, vraiment, j'ai connu beaucoup de personnes qui venaient visiter le Mali. Alors, pour moi, le Mali, c'était une sorte d'Eldorado, de dire un jour, j'irai au Mali. Mais c'est vrai que la vie diplomatique, c'est compliqué. On est envoyé à n'importe où. Et alors, quand la possibilité de venir au Mali m'a été présentée, j'ai accepté immédiatement. Parce que vraiment, je crois que c'était un souhait que j'avais depuis des années. Alors, je dois dire que le Mali, les Maliens et les Maliennes m'ont accueilli avec beaucoup de chaleur. Et parce que je crois que c'est dans l'esprit du pays. Et je crois que vous êtes connu par ça. Et vous êtes un pays très accueillant, très, très chaleureux. Alors, je dois dire que ces 3 mois ont été des mois trop faciles. Parce que vraiment, et c'est vrai que je suis arrivé à un pays que je ne connais pas, mais je me sens à l'aise avec tous les collègues à la délégation qui sont maliens et maliennes, avec les autorités, avec tout le monde. Alors vraiment, je ne peux que remercier le Mali et pour cette chaleureuse accueil que j'ai reçu. Et c'est pour cela que bon, je crois que ça va être très facile de continuer à travailler pendant les prochaines années, parce que si ça, c'est comme ça...
Justement, monsieur l'ambassadeur, comme vous venez de le dire, vous connaissez un peu l'Afrique, le Mali également. Vous avez souvent entendu parler du Mali avant de venir y séjourner actuellement. Quelles ont été les étapes marquantes de votre carrière, notamment sur le continent africain, dans les zones confrontées à des crises similaires comme le Mali?
Merci beaucoup. Ouais, comme je viens de dire, j'ai passé presque la moitié de ma carrière en gérant des affaires africaines. Mais c'est vrai que ce n'est pas seulement ça. J'étais consul aussi au Paraguay, qui était un pays aussi avec des situations compliquées. J'étais le premier diplomate espagnol résident à Myanmar, l'ancien Birmanie, et un pays aussi avec un conflit assez compliqué. Vous savez, c'est vrai que du point de vue de l'Europe et du point de vue des citoyens européens, malheureusement, l'image de l'Afrique, c'était une image un peu fausse. Parce que les médias internationaux, quand ils parlent de l'Afrique, ils parlent toujours des conflits, ils parlent toujours des problèmes. Mais l'Afrique, ce n'est pas ça. L'Afrique, il y a toujours des problèmes en Afrique, mais il y a beaucoup plus que ça. Alors, mon expérience personnelle à moi, c'est que j'ai vécu en Afrique et presque 10 ans de ma vie professionnelle. Et je n'ai jamais eu un problème. Et vraiment, pour moi, l'Afrique, c'est ma deuxième maison. Et c'est vrai qu'encore, il y a des gens qui me demandent « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Mais ici, en Mali, par exemple, les gens pensent qu'ici, à Bamako, nous sommes vraiment dans des combats dans la rue. Et je dis « Écoute, vous ne croyez pas, mais même un pays comme le Mali, qui est un pays qui souffre une situation politique de sécurité très grave, les gens travaillent, les magasins sont ouverts, on peut acheter le pain, on a les concerts, on a la musique, les restos sont ouverts. Alors vraiment, ce que je vois, c'est un peuple vraiment qui a le joie de vivre, même dans ces situations compliquées. Alors vraiment, c'est incroyable de voir que les Africains en général et les Maliens en particulier ont pas seulement résilience, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment la vie continue et on va vivre, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, on peut avoir une vie heureuse. Hein? Alors ça c'est une leçon. Pour moi et pour les Européens, parce que vous savez, en Europe, on se plaint tout. Tout le monde est en train de critiquer tout le monde. Et je dis, écoute, si vous imaginez comment est-ce que les Maliens sont en train de souffrir maintenant, vous ne pouvez pas... Ici, on parlait de ça, la crise énergétique, il y a des coupures d'électricité. Si à Madrid, il y a une demi-heure de coupure d'électricité, les gens vont devenir fous. J'ai dit une demi-heure, mais vous voyez. Alors, vraiment, mon expérience, c'est vraiment d'apprendre que même s'il y a des problèmes, on peut être heureux, on peut continuer à la vie. On doit avoir la force toujours à continuer à lutter pour vivre. Alors, ça, c'est...
Restons dans la dynamique de votre réponse pour parler actuellement de géopolitique au Sahel. Quel regard portez-vous, monsieur l'ambassadeur, sur le contexte géopolitique actuel du Mali?
Ok, merci beaucoup. C'est compliqué, mais c'est pas compliqué parce que nous sommes au Mali ou nous sommes au Sahel. Le monde entier, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Et je crois qu'ici, il y a des dynamiques complexes, bien sûr, mais qui sont dynamiques parfois locales, mais qui sont dynamiques aussi qui viennent de dehors. Et c'est pas, quand on parlait, par exemple, de la crise du carburant, ce n'est pas seulement à cause de la situation au Mali, c'est à cause aussi de la guerre en Iran, au Moyen-Orient. Alors, il y a, je crois que dans le monde maintenant, nous sommes dans une étape historique complètement nouvelle. Et nous tous, nous devons nous adapter à ça. Et pour le Mali, c'est vrai que des points de vue géopolitiques, c'est intéressant de voir comment ici, il y a des relations complexes entre les différents pays de la région, aussi des acteurs qui ne sont pas de la région, qui ont des différentes présences dans les pays avec peut-être des objectifs différents. Mais je crois qu'à la fin, c'est un équilibre d'intérêt, mais je crois que le Mali, il a les droits vraiment comme État souverain, indépendant, de décider de quel chemin doit suivre. Alors le reste des pays, comme l'Union européenne, on va vous accompagner. Et pour nous, vraiment, c'est pas la question de voir s'il y a d'autres pays. Pour nous, c'est vraiment dans cet scénario complexe, c'est de vous accompagner pour vous aider à faire les choix que vous, comme État dit, indépendant et souverain, vous voulez faire. Parce que pour nous, le plus important, c'est le développement et la prospérité du Mali. Ça, c'est la seule question. Alors, comme ça, on va vous accompagner. C'est à vous de décider.
Alors, s'agissant du développement, au Mali et dans le Sahel en général, surtout en lien avec la géopolitique actuelle dans les États du Sahel, quels sont aujourd'hui, selon vous, les principaux défis et opportunités pour la stabilité et le développement de cette région?
Les défis sont plusieurs. Bien sûr, on a d'abord un défi sécuritaire. Le Mali subit une crise sécuritaire très grave à cause du terrorisme. Un terrorisme qui a commencé il y a déjà plus de 10 ans, en 2012 et même avant. Et alors, la sécurité, vraiment, je crois que c'est à la base de tout. Parce que c'est vrai que moi, je crois qu'il n'y a pas... On ne peut pas avoir le développement si on n'assure pas la paix et la sécurité. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir le développement. Parce que les gens n'ont pas l'opportunité vraiment de travailler dans les zones rurales. Il n'y a pas des entreprises qui vont investir. Alors pour moi, le premier pas, c'est toujours la sécurité. Mais c'est vrai que la sécurité dépend aussi de la situation économique, bien sûr, parce qu'à la fin, je crois que pour un pays comme le Mali, c'est très important, un pays où la plupart des citoyens sont des jeunes de moins de 30 ans. Et je crois que vraiment, les gouvernements, mais aussi les partenaires du Mali, comme l'Union européenne, nous devons faire vraiment un grand effort pour créer les conditions, pour créer l'emploi pour les jeunes. Et pour ça, il faut travailler aussi dans l'éducation, parce qu'à la fin, on dit toujours que pour un garçon de 16 ans, 15 ans, quel est le futur dans plusieurs parties du pays. Et parfois, il décide de partir et de traverser le désert ou traverser la mer, risquer sa vie pour arriver en Europe. Et alors, je crois que tout le monde a les droits d'avoir un emploi dans le pays où ils sont nés et où il est né, parce que vraiment ça c'est aussi un emploi digne. Alors pour moi le défi c'est ça, c'est travailler dans le développement du Mali pour lutter aussi contre l'insécurité, parce que les deux volets sont très liés.
Chers auditeurs, chers internautes, si vous nous suivez, sachez que vous écoutez actuellement le Grand Dialogue de Studio Tamani, un numéro spécial qui reçoit le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Mali, Alberto Serroso. Monsieur l'ambassadeur, continuons donc avec notre discussion. Pour parler toujours de diplomatie cette fois-ci, vous savez que les relations entre le Mali et l'Union européenne ont été tendues, parfois très houleuses durant un temps. Quel est aujourd'hui l'état de la relation entre le Mali et l'Union européenne?
Merci beaucoup. Ça, c'est une question que tout le monde me pose dernièrement. Mais vous savez, je dis toujours que l'Union européenne et le Mali, nous sommes des amis d'enfance, parce que les premiers accords de coopération entre le Mali et l'Union européenne a été signé en 1958, avant même la naissance du Mali indépendant, et juste au moment où l'Union européenne est née en tant que communauté économique européenne. Alors, depuis 1958, ce sont déjà presque 70 ans, et des relations. Alors, la relation entre l'Union européenne et le Mali pendant toutes ces décennies ont traversé par différentes étapes. Ça, c'est normal. Mais je crois que cette relation étroite, solide, et c'est normal qu'il y a traversé aussi des moments un peu compliqués. Mais c'est normal. Ça arrive dans toutes les familles. Même avec nos amis, parfois, il y a des moments où on a des problèmes. Mais quand il y a une vraie amitié, quand il y a vraiment un sentiment de qui nous appartenons en même famille, parce que je crois que l'Europe et l'Afrique, nous sommes dans les mêmes espaces géographiques, je crois que nous pouvons surmonter même les différentes. Et c'est pas grave, c'est normal qu'on ait des visions différentes, c'est tout à fait normal. La question, c'est qu'on a la base solide pour, même si nous ne pensons pas de la même façon, résoudre les choses à travers les dialogues. Je crois que ça, c'est ce qu'on fait avec les amis, ça, c'est ce qu'on fait avec la famille. Alors, je crois que en ce moment, c'est vrai qu'on a toujours des visions différentes, mais on parlait toujours, il y a un dialogue, et je parlais avec les autorités déjà, et j'ai confirmé que vraiment, pour le Mali, l'Union européenne est un partenaire important, et on va continuer à travailler. Et si dans le futur, il y a des visions différentes, il y a des moments, des petits accrochages, ce n'est pas grave. On va parler, et à travers les dialogues, on va tout résoudre. Alors, je suis convaincu qu'on peut le faire.
Inch'Allah. Et s'agissant toujours de diplomatie et plus largement, le Mali, comme les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, sont dans un contexte, ces pays sont en train de redéfinir des relations stratégiques et surtout leur partenariat. Et comment l'Union européenne peut composer avec ces entités-là, surtout dans ce contexte où les partenariats sont en train d'être redéfinis?
Ok, merci beaucoup. Vous savez, cette question m'a été posée plusieurs fois depuis que je suis ici. Je dis toujours la même chose. C'est pas l'Union européenne qui doit donner la reconnaissance à des projets d'intégration africaine. Ce sont les pays africains qui décident de s'intégrer d'une façon ou d'une autre. Nous, l'Union européenne, nous sommes un projet d'intégration qui est né depuis des années. Alors, nous croyons vraiment que l'intégration entre les pays, c'est la solution à beaucoup de problèmes dans le monde. Je crois qu'aujourd'hui, et tout le monde est convaincu de ça, il n'y a aucun pays du monde qui puisse faire face aux défis de la communauté internationale de nos jours. Alors, s'il y a des projets d'intégration de l'Afrique, pour nous, c'est bien. C'est pas l'Union européenne qui doit donner la bénédiction. Ce sont des choses que les États africains, en tant que ces États indépendants et souverains, décident. Pour nous, nous donnons la bienvenue à ça et nous donnons la bienvenue au dialogue entre toutes les institutions africaines d'intégration. Et alors, c'est pour cela que si le Mali a décidé de parcourir ce chemin, nous n'avons rien à dire avec ça.
Alors, l'Union européenne reste surtout un partenaire important du Mali dans plusieurs secteurs. Quels sont aujourd'hui les axes prioritaires de ce partenariat-là, notamment dans les domaines comme la santé, l'éducation, l'enfance? Quelles sont les priorités?
Merci beaucoup. En effet, la coopération entre l'Union européenne et le Mali, c'est très complexe parce qu'il est présent dans plusieurs domaines. J'ai parlé avant et les gens demandent aussi quels sont les intérêts de l'Union européenne ici. Les intérêts, comme je dis, c'est la défense des valeurs, plutôt des intérêts communs entre le Mali et l'Union européenne, parce qu'on a des intérêts communs. Si quelqu'un me dit, non, mais parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a toujours des intérêts obscurs, je ne sais pas, non. Et les intérêts sont très clairs, c'est la sécurité du Mali, parce que votre sécurité et notre sécurité, c'est lutter contre le terrorisme, parce que le terrorisme est international, ils ne connaissent pas des frontières. Lutter contre les groupes criminels qui trafiquent avec les drogues, avec les armes, avec les êtres humains, et sont des intérêts qu'on partage avec le Mali aussi. Et bien sûr, comme j'ai dit auparavant, accompagner le Mali dans le développement. Alors, la coopération, si on parle de sécurité, maintenant, nous avons ici une mission, c'est la mission du Cap Sahel Mali, qui travaille dans les domaines de la sécurité aussi, et aussi de l'immigration, avec le ministère de la sécurité, aussi le ministère de la justice, et qui est présent au Mali depuis plus de 13 ans. On a la coopération dans différents domaines. Par exemple, l'éducation, la formation professionnelle, la nourriture, l'énergie, sont des domaines que nous travaillons avec le Mali depuis des années. Alors, ce n'est pas nouveau, ça. Et on a aussi la coopération humanitaire, parce qu'on a aussi un bureau d'éco qui travaille avec les situations humanitaires dans les pays. Alors, comme vous voyez, c'est très diversifié. Et des points de vue du montant, c'est aussi difficile à calculer, parce que c'est vraiment beaucoup de fonds qui ont été versés sur le Mali. Mais pendant les trois dernières années, on parle de plus de 100 milliards de francs CFA en projet de coopération avec le Mali dans tous ces domaines que je viens de partager avec vous. Alors, comme vous voyez, c'est très diversifié, mais je crois aussi souligner le fait que tous ces projets sont faits dans des domaines qui sont importants et prioritaires pour le gouvernement du Mali. Ce n'est pas nous qui avons décidé ça. Nous avons décidé ça avec le gouvernement du Mali, parce qu'on a une relation très étroite avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et alors, ce n'est pas l'Union européenne qui décide on va faire ça ou ça. C'est le Mali qui nous dit, écoute, on avait soin de ça. Et on voit si on peut le faire, et on le fait. Alors vraiment, c'est on suit le gouvernement du Mali dans ces domaines.
Alors, est-ce que toujours dans ce volet, est-ce qu'il y a des nouveaux projets en préparation ou en cours, surtout dans cette situation de crise où des populations sont dans des zones d'insécurité, des populations qui sont affectées par cette crise? Est-ce qu'il y a des projets en cours allant dans ce sens-là ou en préparation?
Pour l'instant, nous sommes encore dans l'implémentation des projets du dernier cycle budgétaire. Alors, on va continuer avec tout ce que je viens de dire. Pour les prochains cycles budgétaires, nous sommes en train maintenant de débattre ça. Et ce matin, j'ai eu une réunion avec nos collègues du ministère pour justement parler de ça, et pour voir dans les prochains mois, avoir des réunions avec le gouvernement du Mali pour voir à partir de maintenant où est-ce qu'on peut aller et de la main du Mali, quels sont les besoins du Mali. Alors, c'est pour cela que dans ce moment-là, je parle à la réponse, parce que nous commençons à parler avec le Mali pour définir les prochaines lignes d'actuation ici au Mali.
Et s'agissant toujours des projets, une question qui me tient vraiment à cœur, j'en souris d'ailleurs. Vous savez, Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle, reçoit un financement de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a possibilité au niveau local, vu que vous êtes le nouvel ambassadeur au Mali ici, qu'il y ait un partenariat au niveau local entre Studio Tamani et l'Union européenne?
Bon, comme vous venez de le dire, c'est une collaboration entre l'Union européenne et le Studio Tamani des très anciens, même du début. Et alors, maintenant, je ne peux pas vous dire, mais si la décision dépend de moi, je ne sais pas, parce que parfois, c'est pas, les gens pensent que les ambassadeurs, nous sommes beaucoup de pouvoir, mais ce n'est pas vrai. Mais je veux travailler pour continuer avoir cette relation étroite entre l'Union européenne et vous.
Merci beaucoup pour cette réponse. Continuons donc notre entretien cette fois-ci pour parler du volet migratoire de l'Union européenne. La question migratoire occupe une place importante dans les relations entre l'Europe et les pays africains. Ces dernières années, la politique migratoire de l'Union européenne a suscité beaucoup de débats. Cette politique a-t-elle évolué? Si oui, dans quel sens, monsieur l'ambassadeur?
Merci beaucoup. Ça, c'est un des volets les plus importants de la relation entre l'Afrique en général et l'Europe. Et je dois dire ici deux choses, parce que je crois qu'il y a aussi pas beaucoup de communication entre l'Europe et les pays africains. Et il y a aussi, dans le passé, on a eu aussi des nouvelles très négatives qui venaient de l'Europe à cause de ça. Mais je dois dire une chose. Pour nous, l'immigration, c'est une partie fondamentale des sociétés européennes. Et vous savez, et si on parle du Mali, la diaspora malienne en Europe, c'est la diaspora la plus importante du monde. Et c'est une diaspora qui est là depuis des années, depuis des générations, qui sont déjà une partie, comme je disais, fondamentale de nos sociétés, et qui fait que nos sociétés européennes soient des sociétés beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus riches. Et comme je disais toujours, il n'y a pas aucun pays du monde qui s'est développé sans l'appui des migrants. Ça, c'est clair. Alors, et aussi, grâce à ça, on a créé des liens sociaux, familiaux entre le Mali et l'Europe. Il y a tellement de citoyens qui ont la double nationalité avec la France, avec l'Espagne, avec l'Italie, et qui sont des deux côtés, qui sont les meilleurs ambassadeurs du Mali en Europe et d'Europe et en Mali. Alors ça, c'est les côtés positifs de l'immigration qui, comme je dis, on a besoin et on veut toujours recevoir des migrants qui arrivent en Europe par la voie légale ou régulière. Le problème est que dans ces côtés lumineux de l'immigration, on est nécessaire, il y a un côté obscur qui est une tragédie pour l'Afrique. On parle de l'immigration irrégulière, où les jeunes africains et maliens sont obligés à partir de quitter le pays pour une aventure qui parfois termine dans la mer. Et je ne sais pas, je connais pas les chiffres, mais on parle des milliers de citoyens, des jeunes africains qui sont morts et qui sont disparus, et des familles qui vont partir un fils ou une fille qui après des années, ils ne savent rien de... Alors je crois que c'est une tragédie. Et en plus, tous ces gens sont exploités et ils subissent des abus de la part des mafias. Et si vous avez eu l'opportunité de parler avec des gens qui ont essayé de traverser le désert, vraiment, on voit des histoires qui sont tragiques. Et alors, je crois que c'est dans l'intérêt de l'Union européenne et du Mali de travailler pour lutter contre ça. Mais pas pour que nous ne voulons pas l'immigration. Comme je dis, on a besoin de l'immigration et on veut des immigrants. Mais parce que je crois qu'on doit protéger les jeunes Africains de ne pas tomber dans les mains des mafias. Parce qu'à la fin, comme je dis, c'est une tragédie et personne ne parle. En effet, on ne sait pas vraiment la quantité des personnes qui sont affectées par ça. Alors je crois que vraiment, le Mali, l'Union européenne en général, et l'Afrique en général, nous devons travailler ensemble pour éviter ça, parce que vraiment, je crois que c'est la meilleure façon qu'on a de protéger les jeunes Africains.
Alors, monsieur l'ambassadeur, la question, le contexte actuel du Mali me pousse à vous poser cette question sur le volet sécurité. Vous savez que la situation sécuritaire reste une préoccupation majeure pour les populations maliennes et sahéliennes en général. Quel rôle l'Union européenne peut-elle encore jouer aujourd'hui dans l'accompagnement du Mali face à ce défi, notamment en matière de stabilisation, d'appui institutionnel et de soutien aux populations affectées par la crise?
Merci beaucoup. Bon, d'abord, je veux rappeler que l'Union européenne a fait un communiqué après les attentats terroristes du 25 avril. On a avec une condamnation ferme des attentats terroristes parce que, comme je dis, le terrorisme, c'est l'ennemi de nous tous. Et on ne peut pas avoir des positions faibles Et nos positions, c'est très net. On a exprimé la solidarité avec les autorités maliennes, avec le peuple malien et aussi avec les victimes, parce que vraiment, ça, c'est un fléau qui nous touche à tous. Non? Alors, en partant de ça et en reconnaissant que le terrorisme, c'est notre ennemi, et nous, l'Union européenne, nous avons été touchés aussi par le terrorisme. Comme je dis, il n'y a aucun pays du monde qui ne soit touché par le terrorisme. Je viens d'un pays où il y a eu des attaques terroristes pendant des années. Alors, on sait très bien ce que ça va dire. Non? Alors, nous sommes ici pour vous accompagner. Encore une fois, je crois que nous ne sommes pas ici pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Nous sommes ici pour vous écouter. Et si vous avez besoin de nous, et nous sommes prêts à collaborer. Et parce que vraiment, ça, c'est la seule chose qu'on peut faire. Vraiment, c'est au-delà, comme je dis, au-delà des différents politiques, et au-delà du niveau des politiques, je crois qu'il y a des liens très étroits et qui nous obligent à nous tous à offrir cette aide à un pays qui est en train de subir cette fléau. Et pas seulement par solidarité, c'est parce qu'à la fin, comme je disais il y a quelques jours, dans un jour, un journal du Mali, et si on n'arrête pas, si nous ne sommes capables d'arrêter le terrorisme ici, ils vont continuer. Dans tous les pays de la région, et on va en arriver. Alors vraiment, je crois qu'il faut coopérer avec tous les pays de la région pour vraiment arrêter d'une fois pour tous cette fléau.
Alors, Monsieur l'Ambassadeur, le temps imparti pour la première partie de notre entretien s'est écoulé. Je vous donne la parole pour conclure. Quel message souhaitez-vous adresser aux Maliens sur l'avenir des relations entre le Mali et l'Union européenne dans ce contexte de transition et de recomposition régionale? Votre mot?
Merci beaucoup. Non, le message, c'est que de façon naturelle, je suis optimiste. Je suis une personne optimiste toujours, alors je crois qu'il faut être optimiste. Je crois que les relations entre le Mali et l'Union européenne ont beaucoup de futur. Et je crois qu'il y a la volonté de vraiment surmonter les différends et continuer à travailler entre l'Europe et le Mali, parce que, comme je disais auparavant, nous sommes obligés, et parce que ça, c'est en bénéfice des peuples du Mali et des peuples européens.
Merci beaucoup, Alberto Cerusso. Je rappelle à nos auditeurs, téléspectateurs et internautes que vous êtes le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Mali. C'est la fin donc de cette première partie du numéro spécial de Grand Dialogue de Studio Tamani consacré à la venue du nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Mali. C'était à la présentation Mariam Maïga. À la régie son et vidéo, il y avait Noum Djiré et Ibrahim Sanogo.